Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Dans les premières lignes de son discours sur les océans le 15 juin 2004, Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, soulignait qu'une découverte scientifique pouvait intervenir dans une société qui peut soit l'accueillir, soit l'ignorer. Je vous propose aujourd'hui de vous emmener dans un monde dont vous ignorez précisément l'existence, un monde qui pourtant est à portée de main. Mieux, il constitue 85% du volume de la Terre. Je veux parler des océans et tout particulièrement des abysses. Abysses, tel est le titre de l'ouvrage de Claire Nouvian, paru chez Fayard. Claire Nouvian qui nous propose un livre totalement inédit à l'usage des scientifiques, mais aussi et plus simplement destiné aux amoureux de la mer. Abysses constitue une découverte au sens scientifique du terme, une découverte que l'on ne peut ignorer non seulement parce qu'il nous ouvre la porte d'un monde considérable par son étendue, mais aussi parce que cet ouvrage nous fait prendre conscience de la fragilité de ces écosystèmes que forment les océans du monde entier. À l'heure où l'homme marche sur la Lune et part à la conquête des planètes à des millions de kilomètres de la Terre, eh bien l'homme dispose près de chez lui d'un espace quasiment inconnu, aux allures fantastiques et irréelles, et qu'il met en péril. Claire Nouvian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, je vous présente aux auditeurs, vous êtes journaliste indépendante, productrice et réalisatrice, et depuis 10 ans, on peut dire que vous parcourez le monde à la recherche des plus belles images. Vous avez reçu plusieurs prix pour la qualité de votre œuvre, pour Océanaute, un documentaire sur la conquête des profondeurs, diffusé sur Arte en 2005. Vous avez reçu le premier prix du Festival Paris Science en 2005, et auparavant, en 2003, vous aviez reçu le prix du meilleur documentaire d'aventure au Festival mondial du film Amazonas à Manaus au Brésil pour Expédition dans les abysses. Alors, je viens de le dire, vous êtes l'auteur du livre, du très beau livre Abysses, un livre d'images, mais également un livre avec de nombreux textes de scientifiques du monde entier, 220 photos prises entre 5000 et combien ? Entre 500, pardon, et combien ?
Oui, 500, plutôt 200, même 300 mètres, et jusqu'à 8000 mètres de profondeur à peu près.
Alors, pouvez-vous nous dire, Claire Nouvian, pouvez-vous nous raconter l'extraordinaire histoire, la genèse de ce livre ?
La genèse du livre a commencé, ça a commencé par un coup de cœur, en découvrant un film avec des animaux, enfin qui montrait des animaux qui étaient époustouflants, un film qui n'est jamais, qui n'a jamais été diffusé ailleurs que au sein de l'aquarium de Monterey en Californie. C'est un film qui montrait des animaux qui avaient été filmés dans le canyon de Monterey, le canyon profond de la côte ouest américaine, un canyon qui descend jusqu'à 3800 mètres de profondeur et qui se trouve juste sur la côte californienne, donc tout à fait accessible aux chercheurs qui ont la chance de disposer d'outils pour aller plonger dans ces profondeurs-là. Et à l'aquarium de Monterey, ils avaient fait une exposition qui s'appelait les mystères des profondeurs et qui montrait ces créatures vraiment tout à fait étrange. Et donc, je suis arrivée là en repérage pour un film que je faisais pour France 2. Et j'ai été assez saisie de me rendre compte qu'il y avait quand même un film qui montrait des animaux que je ne connaissais pas du tout, puisque les animaux, c'était quand même plutôt mon rayon. Donc, me rendre compte qu'un film de 20 minutes présentait des animaux que je n'en connaissais pas un seul, j'étais un peu vexée, mais surtout totalement sous le charme en fait des créatures qu'on me montrait. Donc j'ai cherché à comprendre, à savoir si tout ça était vrai, parce que je pensais que d'abord c'était peut-être des effets spéciaux. Et ensuite j'ai voulu me renseigner sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il n'existait absolument rien qui était destiné au grand public sur les abysses. Donc aucune synthèse n'avait été faite qui était précise en images et précise sur la présentation des différents écosystèmes, parce que abysse c'est un terme très large. Voilà, maintenant abysse, les gens associent en général ça avec des monstres avec des gros yeux et des grandes dents. On pense éventuellement au film de James Cameron qui montrait justement des espèces gélatineuses bioluminescentes, qui était un film de science-fiction, mais les gens n'ont pas de connaissances précises des écosystèmes qui font ce terme abysse en fait. Bon, précisément abysse, c'est une profondeur précise, hein, c'est soit 2000 soit 3000, ça dépend des écoles, mais en gros c'est de 3000 à 6000 mètres de profondeur. Or, évidemment, dans le cas du livre, on entend par abysse tous les océans profonds où la lumière du soleil ne parvient plus. Donc, j'ai vu ce film, j'ai été époustouflée, j'ai cherché les documents et je me suis rendu compte qu'il n'existait rien, donc j'ai voulu le faire.
Alors, vous parliez d'école, justement, de cette opposition. Votre position à vous, finalement, était une position idéale parce que vous étiez un électron libre et vous avez été au centre d'une immense toile d'araignée que vous avez créée visant à réunir tous les documents possibles sur le sujet.
Oui, tout à fait. C'était d'ailleurs ce qui était intéressant, c'est que les instituts n'ont pas l'habitude d'échanger leurs images. Ce sont les chercheurs qui, entre eux, éventuellement, d'un point de vue individuel, peuvent s'envoyer un mail avec une image parce qu'ils travaillent sur le même sujet. Mais il n'y a pas de mise en commun des images de la part des instituts. C'est d'ailleurs pas leur but de faire des banques d'images. La création d'images, pour eux, c'est simplement à but scientifique. Donc, l'aquarium de Monterey est jumelé avec l'Institut de recherche de Monterey, donc ça s'appelle Monterey Bay Aquarium Research Institute, MBARI. Et MBARI, par exemple, ils ont de très belles images. Ils avaient fait un tout petit livre de vulgarisation qui était très bien fait, mais ils n'avaient choisi finalement des images que dans leur banque d'images à eux. Or, pour faire une synthèse globale des océans, il fallait profond, il fallait s'adresser à tous les instituts de recherche qui font de la recherche profonde, puisqu'ils ont chacun un peu leur spécialité. Quand même, l'IFREMER en France, on est quand même bien spécialisé sur l'hydrothermalisme et la recherche de nodules polymétalliques, et puis évidemment les pêcheries profondes. Au Japon, ils ont une spécialité, évidemment, James Tech au Japon a plutôt une spécialité dans la recherche à dalles, donc tout ce qui concerne les fosses profondes. Et les instituts américains, bon, Woods Hole, évidemment, a plusieurs spécialités. Ils font aussi, bien sûr, de l'hydrothermalisme. Mais l'institut, par exemple, MBARI, était très spécialisé dans la vie pélagique, les animaux qui vivent entre deux eaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était complémentaire par rapport aux instituts français, allemands, japonais, puisqu'ils avaient des images de ce qui se passe dans l'entre-deux eaux, dans cette colonne d'eau que personne d'autre n'avait. Donc, pour faire cette synthèse, il fallait forcément s'adresser à tous les instituts.
C'est ce que vous avez fait. Les rapports étaient difficiles. On vous a pris finalement. Oui. Est-ce qu'on vous a pris au sérieux au début?
Oui, parce que d'abord je connaissais très bien l'IFREMER depuis longtemps, puisque l'IFREMER avait déjà coproduit le film Expédition dans les abysses, le film que j'avais réalisé sur le recyclage des cadavres de baleines dans les grands fonds. Ils intervenaient dans le film Océanaute. Moi je marche à leur côté depuis déjà quelques années. Aux États-Unis, j'avais déjà tourné deux films en fait avec l'Institut MBARI en Californie, donc là j'étais aussi très bien reçue. Et d'autres instituts, c'était un petit peu plus difficile. Par exemple, au Japon, il y a une barrière linguistique, sans doute, peut-être culturelle, je ne sais pas. Enfin, ça n'a pas été très simple d'entrer en contact avec les chercheurs japonais. Finalement, ça s'est produit, mais il fallait être tout à fait patient. Alors que c'est vrai, globalement, aux États-Unis, je trouvais que l'accueil était très simple. Les chercheurs américains acceptent tout à fait l'idée qu'eux font de la recherche et quelqu'un s'occupe de vulgariser leur recherche. Ils acceptent non seulement l'idée, mais en plus, dans leur système, que leur travail soit vulgarisé, c'est valorisé pour le financement, le montage de projets, le montage de campagnes à la mer et la recherche de fonds. Donc, ils se servent de ça. Enfin, quand un chercheur est le sujet principal d'un documentaire, il se sert de cette bande, il la fait figurer dans son CV, il récupère une bande, il la montre à NSF, National Science Foundation, pour montrer que il reste pas dans sa tour séparée du monde réel. Donc, on apprécie franchement cet effort là qu'on appelle outreach, cet effort de vulgarisation. Mais ce terme outreach en anglais, on n'a pas vraiment tout à fait l'équivalent en français. C'est vraiment atteindre le public. C'est un effort d'atteindre du public.
Ouais. Alors c'est ce qui fait vraiment l'identité de votre livre, c'est qu'il est à la croisée et de la science et de la vulgarisation.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est quand même un ouvrage de vulgarisation. C'est-à-dire que on va voir des images qui, en effet, sont exceptionnelles, même pour les chercheurs entre eux. Ils ont des surprises en tournant en tout cas les pages du livre, parce qu'il y a des photos qui m'ont été confiées montrant des espèces qui ne sont pas encore décrites ou pas encore ou en tout cas peut-être décrites, mais en tout cas les articles décrivant leur comportement, etc., n'ont pas encore été publiés. Donc évidemment, c'est pas encore dans le domaine dans les journaux spécialistes. Mais globalement, c'est vraiment une question, c'est une synthèse vulgarisatrice quand même. Ceci dit, même pour les chercheurs, avoir une synthèse de vulgarisation est quelque chose de bénéfique, parce que, en effet, le spécialiste de l'hydrothermalisme n'a pas le temps, il n'a pas le loisir d'aller s'occuper de ce qui se passe dans la colonne d'eau. Donc avoir en plusieurs textes une idée assez globale de ce qui se produit dans la colonne d'eau, les phénomènes, etc. C'est, ça leur sert aussi.
Quel était votre objectif, Claire Nouvian, en publiant cet ouvrage ? Au début, vous nous avez dit que vous souhaitiez en fait combler un vide. Mais je suppose qu'après, avec le temps, parce qu'il a fallu du temps pour réunir toute cette documentation, eh bien, votre objectif a évolué.
L'objectif a évolué. Oui, c'est vrai que au début, ça a été un choc vraiment dans le domaine de l'affectif. Hein. J'ai eu un coup de cœur très fort. C'était vraiment un coup de cœur presque amoureux avec ces bêtes étranges et rigolotes et magiques. Et donc, au début, c'est parti de là, et ensuite. Je me posais tellement de questions que je voulais en effet y répondre. Je voulais que quelqu'un me raconte la grande histoire des océans profonds, qu'on m'explique tout ce qu'il y avait dans les océans, comment ça marchait, comment ça fonctionnait. Et en faisant ce travail-là, finalement, cette grande enquête, parce que personne n'était, il n'y avait pas une personne qui était capable de répondre à cette question, enfin, à part le professeur Lucien Laubier, qui est devenu mon relecteur scientifique, parce que lui, il a une culture quand même très vaste et transversale des océans, enfin, des abysses. Mais globalement, c'était difficile de recréer vraiment, de trouver toutes les informations. Donc, le but, en découvrant tout ce qui se produit au fond des océans, évidemment, est devenu un petit peu plus environnementaliste. Je me suis rendu compte qu'il y avait, les abysses étaient en majorité dans des eaux internationales qui ne sont pas protégées, ou peu. Et qu'il y avait une exploitation qui était quand même assez sauvage des récifs coralliens profonds. Donc là, on en reparlera peut-être un petit peu mieux tout à l'heure. Et donc, voilà, donc je me suis dit que pour protéger un environnement, il fallait quand même le connaître. Pour l'aimer, il faut le connaître. Donc on ne protège pas ce qu'on n'aime pas et on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc il fallait d'abord montrer qu'il existait des choses. Parce que, mine de rien, on est quand même... bon, là, on s'adresse à un public... très érudit, donc la question ne va pas se poser, mais les gens globalement ne sont pas du tout au courant qu'il existe de la vie dans les profondeurs. On est resté sous l'influence de Edward Forbes et de sa théorie azoïque qu'il n'y avait pas de vie au-delà de 600 mètres de profondeur, qui a vraiment marqué tout le 19e siècle jusque dans les années 50.
Je me permets de dire un dernier mot finalement sur votre parcours et sur votre personnalité. Vous écrivez que vous espérez que cet ouvrage saura créer une émotion assez forte pour nous saisir et nous interpeller dans ce qu'il y a de plus profond, de plus intime en nous. Notre appartenance à une vaste chaîne vivante, incroyablement belle, terriblement fragile et jusqu'à preuve du contraire, miraculeusement unique dans l'univers. Dans vos propos, dans votre démarche, il y a énormément d'émotions, Claire Nouvian.
Oui, ça c'est sûr. Je suis poreuse. Je pense que j'ai du mal à rester dans la rationalité tout le temps. Je fluctue tout le temps avec les émotions et ce sujet. De toute façon, je ne sais pas comment on fait pour ne pas être dans l'émotion forte quand on voit le vivant sur Terre, quel qu'il soit. Safari en Afrique, c'est tout à fait émouvant aussi.
Oui, mais alors, avant l'émission, nous nous sommes rencontrés et en vous écoutant, on se rend compte que cette émotion est tout aussi présente dans ce monde scientifique que vous avez côtoyé. Je dirais même qu'il y a des grands enfants, vous décrivez les remontées de plongée où tout le monde est sur le pont et tout le monde attend qu'une chose, c'est de voir les spécimens.
Oui, tout à fait. C'est marrant parce que justement, les chercheurs souvent se limitent puisque évidemment il faut qu'ils soient absolument sérieux dans leur démarche. Donc dès qu'il s'agit de publier un article, ça devient très aride, très scientifique. C'est la démarche scientifique, prouver, enregistrer des données, montrer la démarche, la méthode, etc. Donc ça c'est parfaitement logique. Mais du coup il n'y a plus de place à l'expression de leur émotion. Mais ils sont évidemment dans l'émotion, qu'ils le veuillent ou non. Et ça c'est étonnant quand je suis partie plusieurs fois en mission océanographique avec des chercheurs, bon, ils se trouvent américains mais parfois aussi russes, etc. Et c'est étonnant, ils sont surexcités, c'est vraiment des gamins. En effet, quand le submersible remonte, même s'il est 2h ou 3h du matin ou 6h du matin, tout le monde se jette sur le submersible pour voir ce qu'ils ont attrapé, si les échantillonneurs ont des choses rigolotes, des choses nouvelles. Et là, on voit qu'on est quand même dans une ère de l'exploration, peut-être la plus grande ère d'exploration qui vient de commencer en ce qui nous concerne. Quand on pense qu'on connaît, en fait, un nombre d'espèces, bon, c'est débattu ça aussi, mais on va dire entre 1 400 000 et 1 700 000 espèces sur Terre, y compris les espèces dans les océans. Mais les océans, en fait, les espèces qui ont été décrites dans les océans représentent 15% de ça. Donc, 55% de la biodiversité mondiale est occupée par les insectes. Donc, on sait maintenant qu'il nous reste à découvrir peut-être 10 fois, peut-être 100 fois ça dans les océans. Donc, on entame finalement peut-être la plus grande ère d'exploration.
Je reçois Claire Nouvian, auteure du livre Abyss, un livre de photos magnifiques. Nous nous retrouvons dans un instant. À tout de suite. Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Claire Nouvian, journaliste, réalisatrice et auteure d'un livre, un livre magnifique sur les abysses, sur la faune des abysses. Alors Claire Nouvian, nous parlions de l'esprit des scientifiques devant ces abysses. Vous dites dans votre livre que toujours il faut garder un esprit d'humilité face à cette immensité qu'est l'océan.
Oui. Enfin, l'humilité, je pense qu'il faut la garder tout le temps, face à n'importe quoi. Je comprends pas très bien les gens qui se prennent au sérieux. Mais, alors, je pense qu'en tout cas, pour ceux qui se prennent au sérieux, un petit passage par les abysses, en réalité, hein, s'il y a à faire une plongée profonde, de toute façon, ça remet à sa place. Hein. Ça, c'est sûr.
Beaucoup de questions, hein, dites-vous, restent sans réponse. Et en lisant le texte des scientifiques que vous publiez dans votre ouvrage, eh bien, on s'aperçoit qu'ils utilisent régulièrement le conditionnel.
Oui, ça, c'est là.
C'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire qu'on veut préserver une chose que l'on dit connaître ou que l'on commence à connaître, mais finalement, on la connaît, on en connaît moins de 5%.
Oui, et puis en plus, c'est toujours difficile de mettre un pourcentage. Ça voudrait dire qu'on sait déjà, avec certitude, le pourcentage global, la finalité de l'exploration. Or, on commence tout juste, donc on ne peut faire que des statistiques et des projections. Donc, on base justement les espèces qui restent à découvrir dans les océans profonds sur les calculs de deux chercheurs américains qui ont échantillonné avec grande précision 40 mètres carrés. C'est vraiment une chambre de bonne, enfin un studio. 40 mètres carrés du talus continental à peu près à 2000 mètres de profondeur sur la côte est américaine. Et là, ils ont prélevé, je sais pas, plus de 500 échantillons de ces 40 mètres carrés-là. Et ils ont découvert que dans tous leurs échantillons, il y avait environ 58% d'espèces inconnues. Donc ils ont fait des calculs savants qui ont abouti à la statistique qui est la plus courante. On dit qu'il y aurait entre 30 et 50 millions d'espèces nouvelles à découvrir dans les abysses. Donc que les chercheurs utilisent le conditionnel, finalement, c'est indispensable puisqu'on est au tout début de cette exploration. En termes d'histoire de l'exploration, il faut quand même se rappeler qu'en 1934, William Beebe plongeait pour la première fois, enfin, 1934, il atteignait 922 mètres de profondeur. Il avait commencé ses premières plongées dans une sphère métallique suspendue à un câble de la façon la plus périlleuse qui existe. Et il a donc commencé les plongées profondes en 1930. On n'a pas dépassé 1000 mètres de profondeur. Et ensuite, il a fallu attendre Auguste Piccard, évidemment, pour que la navigation libre dans les abysses commence. Et encore, avec Piccard, ce génie, on est arrivé au bathyscaphe, donc le bathyscaphe Trieste, qui est arrivé en 1960, qui a battu le record absolu de plongée, en tout cas d'immersion des humains dans les océans profonds, puisqu'ils ont atteint 10 916 mètres. Son fils, Jacques Piccard, avec le capitaine Don Walsh. C'est en 1960. Donc là, on était avec un bathyscaphe qui est un ascenseur. On descendait, on remontait, il n'y avait pas vraiment de navigation libre. Et ces exploits ont incité le développement de sous-marins qui seraient bien plus mobiles et bien plus libres pour l'exploration. Donc finalement, c'est vraiment avec l'avènement de sous-coupes comme Alvin aux États-Unis, Siana en France, l'Archimède qui a fait de très belles plongées aussi auparavant, qu'on commence vraiment l'exploration des abysses.
Il y a une phrase que vous aimez, qui est un mot d'Haroun Taziev, qui dit qu'explorer la dorsale océanique à l'aide de submersibles équivalait à explorer les Alpes de nuit avec une lampe de poche. Je crois que c'est une image formidable et ça nous resitue bien en fait le voyage du bathyscaphe. Est-ce que techniquement aujourd'hui on a beaucoup plus de facilité que l'on avait il y en a 30 ans ? Est-ce qu'il y a toujours une progression dans ce domaine de l'exploration ?
Oui, du point de vue technologique, c'est sûr, hein, ça n'arrête pas d'être amélioré. C'est un processus qui est en marche et qui ne fait que se perfectionner vers plus de performance, plus d'autonomie. Le grand débat dans la recherche actuelle profonde, c'est il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre le submersible, donc la capsule habitée par des hommes et libres. La plupart des chercheurs maintenant privilégient les ROV, les robots qui sont câblés et qui permettent, donc qui ne sont pas du tout habités, qui permettent de faire de la science collective. Donc ça leur permet en fait d'avoir une salle de contrôle avec des écrans en général aux États-Unis, plasma impeccable, très grand, il y en a partout, c'est vraiment le spectacle. Et il y a des sièges très confortables, donc toute l'équipe scientifique peut être réunie pour participer à la plongée. C'est vrai que d'un point de vue scientifique, c'est génial. au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un pilote, un observateur scientifique et éventuellement un troisième dans certaines sous-groupes qui partent explorer, disons, la dorsale, et on va avoir un géologue dans le, ou deux géologues dans le submersible qui vont faire une plongée de géologie. Or, s'ils croisent un animal parfaitement insolite, incroyable, etc., ils vont éventuellement le filmer un peu, s'ils s'intéressent un tout petit peu à la faune et à autre chose que, qu'à des cailloux. Mais ils peuvent passer à côté d'une découverte essentielle. Les sources hydrothermales, d'ailleurs, en 77, ont été découvertes à côté des Galapagos, sur la dorsale, par des géologues qui ont quand même compris, évidemment, qu'il se passait des choses incroyables.
Nous en reparlons.
Mais ils sont remontés, ils n'ont pas vraiment fait de prélèvement. Donc, c'était une mission de géologie, donc il n'y avait pas de biologiste à bord. Et quand ils ont décrit et montré aux biologistes ce qu'ils avaient découvert, les biologistes étaient fous parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils devaient attendre le temps qu'une mission se remonte pour retourner plonger sur une source hydrothermale. Ils ont dû attendre 2 ans, 1979, donc ils étaient hystériques. Donc voilà, l'avantage d'un ROV, c'est que la science est collective. Donc il y a un géologue, un chimiste, des biologistes qui vont dire, le géologue dit tiens, attrape-moi le caillou, le biologiste dit moi je veux des moules, et le chimiste dit prends-moi un échantillon de sédiments pour que je regarde, voilà. Donc c'est génial, mais ça n'empêche pas que plonger soi-même, c'est une expérience qui donne une compréhension du milieu, c'est difficile à expliquer, mais qui est tout autre. Et j'en ai discuté avec José-Marie Sarrazin, qui est une chercheuse de l'Ifremer, qui était d'accord avec moi, qui disait que rien ne remplaçait une plongée profonde pour soi-même dans un submersible. Or, la tendance est plutôt à aller vers les ROV.
On veut bien vous croire. Alors, plongeons, si vous le voulez bien, Claire Nouvion, dans les grands fonds. Il y a deux grandes parties dans votre ouvrage. Vous distinguez très clairement ce qu'on appelle l'entre-deux eaux du fond des océans. Quelle signification donner à l'un et à l'autre ?
Ce sont évidemment deux milieux qui sont en tout opposés, puisque l'entre-deux eaux, évidemment, c'est ce qui se passe entre, enfin pas la surface, puisque là on parle d'abysse, donc on va commencer, disons, à 200 mètres de profondeur, jusqu'au fond. Donc ce sont des animaux qui ne touchent jamais le substrat, qui s'approchent peu de la surface et qui évitent soigneusement les cailloux, les reliefs, tout ce qui pourrait en général les déchiqueter. Et ce qui se passe sur le fond, le benthique du pélagique, on oppose le benthique au pélagique. Globalement, on s'est rendu compte que on pense entre 80 et 98% de la faune à découvrir dans les fonds, dans les océans, se trouve proche du fond, soit sur le fond directement, soit juste aux abords du fond. Donc évidemment, ce qui se passe dans la colonne d'eau est très intéressant en termes de phénomènes, la bioluminescence, 90% des animaux qui vivent dans la colonne d'eau sont bioluminescents. Donc il y a des phénomènes qui sont très intéressants à étudier d'un point de vue scientifique. En termes de nombre d'espèces ou de diversité des espèces, c'est a priori bien moindre par rapport au milieu benthique. Donc ben voilà, il fallait absolument opposer ces choses-là.
Alors, dans l'entre-deux eaux, puisqu'on va commencer par cette partie, dans l'entre-deux eaux, il existe des animaux particuliers, vous venez de le dire. Quelles sont leurs caractéristiques ? Quels sont ces animaux ?
C'est très varié. C'est l'inverse de ce que je viens de dire. Non, il y a quand même une grande variété, juste un peu moindre, ou même carrément moindre par rapport à ce qui se passe sur le fond. Alors, la grande découverte, je pense, des plongées profondes, récentes, depuis 20 ans, ça a été découvrir que les organismes gélatineux étaient sans doute les plus représentés en termes de biomasse, en termes de masse vivante sur Terre. Or, évidemment, quand on faisait passer des chaluts dans l'entre-deux-eaux depuis le 19e et même avant, mais des chaluts profonds, c'est vraiment au 19e qu'on a commencé à s'intéresser à ce qui se passait en profondeur. On les remontait sous forme de bouillie. Donc, évidemment, comme c'est 98% d'eau et un petit peu de collagène, c'est tous les siphonophores, les cténophores, les méduses, tous ces animaux gélatineux, on n'avait absolument aucun moyen de soupçonner leur importance réelle dans la chaîne écologique pélagique. Et en plongeant, donc en développant, les Américains en particulier, quand ils ont développé des outils de plongée pélagique, donc des submersibles qui étaient parfaitement adaptés à une navigation entre deux eaux avec des moteurs très précis qui leur permettaient de se maintenir dans la colonne d'eau, là on s'est rendu compte que en fait il y avait le plus grand animal de la Terre, par exemple, vivait dans l'entre deux eaux et qu'il y avait une masse gélatineuse d'animaux qui était phénoménale.
C'est George Matsumoto, un des scientifiques auxquels vous avez fait appel. Il définit les quatre impératifs, les quatre caractéristiques pour vivre entre deux eaux. Quelles sont-elles ?
C'est une colle.
Oui, c'est une colle.
C'est, je suppose, se nourrir, se reproduire, se défendre et se camoufler sans doute. C'est ça ?
Oui, oui.
J'ai répondu à la colle ou pas ?
Vous avez répondu à la colle. Mais finalement, le Matsumoto nous permet d'aborder ce monde grâce à ces quatre caractéristiques. On a du mal à imaginer comment ces animaux arrivent à circuler. Ils sont tout le temps en circulation, ils bougent tout le temps, puisque vous dites qu'ils ne s'attachent à aucun substrat.
Eh bien, c'est plutôt tout l'inverse. Ils ne bougent pas beaucoup.
Évidemment, ils sont dans un état, on appellerait ça de lévitation.
Eh bien oui, en fait, ils ont des systèmes de flottabilité qui leur permettent, très performants, qui leur permettent de se maintenir à une profondeur donnée de leur choix et de sans effort. Donc, ils ont des systèmes d'échange de gaz dans leurs pneumatophores, dans le cas par exemple des siphonophores, qui sont des grands organismes gélatineux. Ils ont de la substance gélatineuse à l'intérieur de la peau, dans le cas de certains poissons. Enfin, ils ont toutes sortes de... Les requins profonds ont des foies qui sont remplies d'huile, qui est plus légère que l'eau, donc qui leur permet d'annuler complètement leur poids une fois qu'ils sont, enfin, une fois qu'ils sont dans l'eau. De toute façon, ils sont dans l'eau. Donc, c'est un système qui est très efficace pour se maintenir à une profondeur donnée sans avoir à fournir d'efforts musculaires.
Comment chassent-ils ces animaux ?
Ben, la plupart, on pense, c'est en train d'être établi grâce à la bioluminescence, en fabriquant leur propre lumière. Donc, ce qui leur permet, évidemment, puisque les océans sont si vastes...
ce qu'on n'a pas dit depuis le début de l'émission, c'est que nous sommes bien évidemment dans le noir le plus total. Jamais l'émission éclairage n'a aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui, puisque là, vraiment, nous sommes dans le noir total.
Ben oui, mais à la rencontre de la bioluminescence. Oui, la profondeur moyenne des océans est 3800 mètres. Donc, ça situe déjà le fait que l'énorme majorité des organismes vivants sur notre planète n'a jamais vu la lumière du jour et ne verra jamais le moindre photon de lumière solaire. Donc, en effet, ils vivent dans le noir complet. Et dans cette obscurité, ils ont répondu au problème en créant leur propre lumière. Donc, avec de la bioluminescence, ils arrivent à observer. Donc, ils ont des phares pour regarder ce qui se passe autour. Ils ont des leurres bioluminescents pour attirer les proies. Ils ont des systèmes, des mécanismes de défense dans lesquels ils vont cracher des nuages visqueux ou bioluminescents, ou alors des étincelles, ou se séparer de leurs tentacules qui, eux, s'éclairent et qui permettent de dérouter le prédateur. Enfin, il y a une réponse, évidemment, d'une diversité infinie par rapport aux problèmes que pose l'obscurité et l'immensité d'un écosystème.
Claire Nouvian, je sors des familles et des espèces pour avoir peut-être une considération plus générale du milieu. En fait, on s'aperçoit que les créatures, en quelque sorte, évoluent dans un milieu qui leur est propre. Ils ont une morphologie qui est une adaptation, oui, à ce milieu. C'est une chose difficile à exprimer.
C'est une des questions.
La pieuvre, par exemple, je me permets de vous couper. La pieuvre, on imagine une pieuvre au fond de son trou. Eh bien là, la pieuvre... Le calmar, le poulpe, a une forme qui finalement correspond pleinement à son milieu, qui est sans ventouse, c'est bien cela ?
Non, enfin, ils ont encore des ventouses, mais ça dépend. Là, on parle peut-être du poulpe ventouse, enfin, Staurototis sirtensis. Lui, c'est un poulpe particulièrement intéressant, en effet, puisqu'il en a découvert que ces ventouses, qui, évidemment, chez un poulpe de surface, servent à adhérer au substrat, avaient perdu leur fonction adhésive et étaient en train de se transformer en photophores luminescents. Donc on est en effet dans le cas typique de l'adaptation d'un animal qui est d'origine en surface et il a colonisé une niche écologique qui était vacante qui se trouvait être les abysses. Enfin, dans le cas de Staurototis sirtensis, c'est pas les abysses à proprement parler puisqu'il vit plutôt autour de 700 mètres de profondeur, enfin à partir. Et en colonisant les grands fonds, il se trouve évidemment confronté au problème de la vie entre deux eaux. Il fait noir, comment faire ? Ben, il transforme certains organes et certains appendices. Il va se rajouter, par exemple, le Vampirototis infernalis, le vampire des abysses, à des photophores luminescents qui ressemblent à des yeux, qui sont au-dessus de ses yeux. Donc, on a souvent pensé que c'était des yeux. En fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment pour transformer la perception de sa taille dans le milieu. Donc, voilà, ils ont évidemment, ils évoluent en fonction du milieu. Ils ont, et là, évidemment, étant donné qu'il y a des tas de bêtes différentes qui n'ont pas toutes le même âge en termes d'évolution, on trouve toutes sortes de réponses.
Alors, on ne peut pas parler des abysses sans évoquer le calmar géant. C'est ce que je vous propose de voir, Claire Nouvian, dans un instant. À tout de suite.
Partagez le savoir, C'est la découverte avec nos journalistes de la présence de la langue française dans le monde. Avec Christa Leuc, vous rencontrez les directeurs des Alliances françaises.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Claire Nouvian, auteur du livre Abyss, paru chez Fayard. Et nous évoquons donc la faune des grands fonds et de l'entre-deux-eaux, hein, puisqu'il faut distinguer l'entre-deux-eaux des grands fonds. Alors, Claire Nouvian, nous venons d'évoquer un petit poulpe. On ne peut pas parler des abysses sans évoquer, bien évidemment, le calmar géant. Mythe ou bien réalité ?
Ah ben réalité, c'est incontestable.
Mais c'est quoi
géant ? Et incontesté.
Que signifie géant ?
Géant, mais c'est 18 mètres.
18 mètres.
Voilà, au bas mot. Donc, oui, géant.
Alors, il y a une chose, importante, c'est qu'on n'a jamais rencontré de calmar géant vivant.
Si, le docteur Kubodera, au Japon, a filmé un calamar géant l'année dernière ou l'année d'avant, sans doute.
Oui.
Il avait, d'ailleurs, c'était tout à fait son but, il avait fait traîner un appât, je pense, aux alentours de 1000 mètres de profondeur. On pense que c'est l'habitat du calamar géant. Et il a traîné comme ça son appât dans le Pacifique et il a été attaqué par un calamar géant. Donc, il était ravi. Ils ont pu filmer ça. Ils avaient des caméras qui étaient installées au-dessus de l'appât. Mmh. Et c'était un animal qui n'était pas géant par la taille parce que c'était un animal sans doute juvénile. Mais le calamar s'est débattu longuement. Ils ont fait des milliers de photos. Et le calamar a fini par s'échapper et à se libérer de l'appât et de l'hameçon en laissant une partie d'un bras. Mmh. Du coup, par analyse d'ADN, ils se sont rendus compte que c'était un Architeuthis duc, c'est un vrai calamar géant. Mmh. Donc voilà, la première mondiale d'un calamar géant vivant filmé dans les profondeurs.
Mmh. Mais on a mis vraiment du temps à voir ce calamar.
Ah oui, ça fait évidemment des siècles hein, qu'il existe des mythes ouais. rapportés par les pêcheurs, etc. sur le calamar géant. Mais l'animal frais et complet, le premier a été trouvé à la fin du 19e siècle au Canada. Et donc le mythe a cessé pour se rendre compte qu'en effet, il s'agissait bien d'animaux réels. Mais les trouver échoués sur une plage ou les filmer vivants, évidemment, c'est devenu le rêve de plusieurs cinéastes et de chercheurs. Donc ils ont organisé une trentaine d'expéditions qui, pour l'instant, ont fait chou blanc.
Sauf
Kubodera.
D'accord. Voilà. Alors, je voudrais terminer en ce qui concerne l'entre-deux-eaux sur un dernier animal qui est une découverte extraordinaire dont vous parlez dans le livre, qui est la découverte de l'Atimeria, un animal que l'on pensait disparu depuis plus de 245 millions d'années. C'est, si vous me permettez cette expression, une sorte de fossile vivant ?
Oui, tout à fait, le sélacanthe, hein. Le fameux. Lui, c'est pas une. J'ai même pas de photo dans le livre parce que il est quand même déjà bien connu. On l'a découvert en 1938, au large de l'Afrique, je crois, hein, l'Afrique du Sud. Donc,
c'est comme si on découvrait un dinosaure, en fait.
C'est un peu comme ça, oui. Sauf que je pense que ce qu'il y a de plus récent et qui, à mon sens, plus de l'actualité, c'est le vampire des abysses, par exemple. Le vampire des abysses, on l'a filmé, c'est un fossile vivant aussi, un vrai. Il y en a d'autres hein, dans les abysses. Il y a des requins profonds qui ont vraiment des origines qui remontent à 300 millions d'années aussi. Donc il n'y a pas eu de rupture hein, dans l'évolution. Et ils ont les traits morphologiques de leurs ancêtres. Mmh. Et évidemment, les crinoïdes pédonculés aussi, sur le fond. Mmh. Donc il y a très peu de fossiles vivants, mais il y en a. En tout cas, la plupart des animaux, maintenant on sait, leurs origines remontent quand même à la surface et sont vraiment récentes. Donc l'idée que les abysses forment un refuge pour des fossiles vivants a été jusqu'à Darwin. En fait, Darwin, même dans l'origine des espèces, le suggérait, en fait. Et c'est vrai que ça arrangeait aussi quand même les catholiques, tous les chrétiens, de se dire qu'il n'y avait pas eu de failles dans la Genèse. Donc on disait que les fossiles qu'on découvrait correspondaient à des animaux qui existaient, mais qui existaient dans des zones qui n'étaient absolument pas explorées, comme des déserts lointains, les pôles ou les profondeurs des océans. Donc cette idée des abysses, refuge de fossiles vivants, est née en fait de cette tradition. Maintenant, avec l'expédition déjà de Charles Wyville Thompson, donc l'expédition du Challenger entre 1872 et 1876, Wyville Thompson y allait pour trouver des fossiles vivants et il s'est rendu compte que finalement il y en avait très peu. Mmh. Donc à partir de là, mais l'idée est restée dans le public. Elle est vraiment profondément ancrée dans l'esprit du public et jusqu'à aujourd'hui, puisque tout le temps, on me demande, Abyss, oh, leur tête incroyable, ce sont des fossiles vivants? Non, non, non. Ce sont des animaux qui vont évoluer rapidement en réponse à un milieu hostile.
Alors, passons, si vous le voulez bien, au fond donc des océans, Claire Nouvian, que l'on distingue de l'entre-deux eaux. On a longtemps cru, vous l'avez dit, que le fond des océans était un désert sans vie, alors que, là encore, si vous me permettez une expression osée, c'est un cimetière en vie. Alors, cimetière, mon expression est bien choisie, puisque vous avez travaillé sur les cadavres des baleines. Vous dites qu'il y a environ 600 000 cadavres de baleines au fond des océans, et ces cadavres de baleines sont des lieux de vie.
Oui, parfaitement. Ça aussi, on pouvait le théoriser avant de l'observer in situ. On se doutait bien qu'une baleine, comme une baleine bleue qui fait 30 mètres de longueur et qui fait jusqu'à 100 tonnes, quand un animal comme ça parvient dans les grands fonds, sachant que quand même les abysses, en tout cas la plaine abyssale, à part quelques lieux bien précis comme les monts sous-marins ou les sources hydrothermales où il y a énormément de biomasse, la plupart du temps, la biomasse est très faible, mais la diversité est très grande. Mais la biomasse est faible, donc il y a une densité vraiment faible sur les fonds. Donc on se doutait qu'un cadavre de baleine bien charnu qui parvient dans les océans profonds, ça devait être une aubaine pour tous les animaux et toute la faune profonde. Et le chercheur Craig Smith de l'université de Hawaï l'a vérifié en plongeant en 1987 sur le premier cadavre de baleine qui reposait vers 2000 mètres de profondeur. Et là, ils se sont rendus compte, en effet, qu'il y avait énormément d'animaux. Et ensuite, Craig Smith a démontré qu'il y avait non seulement des animaux, mais qu'il y avait des animaux qui venaient par étapes successives, distinctes, et qui se reproduisaient en fait à chaque fois sur tous les cadavres de baleines. Donc il a identifié 3 étapes avec des animaux qui sont toujours les mêmes, et il y a 2 étapes dans lesquelles les animaux sont spécialistes. Donc on ne les trouve que là, ce sont des animaux endémiques, en grande partie, aux cadavres de baleines. Donc on s'est rendu compte que non seulement en effet les baleines donnaient à manger, on va dire, alimentaient les abysses, la faune des abysses, mais sans doute il y avait eu un temps où il y avait tellement de baleines dans les océans qu'il y avait même une faune spécialiste dans les abysses. Et ça a été une grande découverte.
Dans le fond, il y a un élément essentiel et extraordinaire, nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est la découverte de 2 géologues qui, en 1977, c'est bien cela, ont fait une découverte renouvelant finalement notre connaissance des océans, ce sont les sources hydrothermales. Qu'est-ce qu'une source hydrothermale, Claire Nouvian ?
Une source hydrothermale, je suis sûre que les gens savent, le public ici, je suis sûre qu'ils savent, mais on va leur rappeler. C'est l'émission de fluides qui sont chargés, en fait c'est de l'eau qui a circulé à l'abord du magma et qui rejaillit sous forme de fluides toxiques, puisqu'ils ont été chargés en sulfure et en hydrogène sulfuré et en métaux, et qui rejaillit sous pression à divers lieux des dorsales, des dorsales médio-océaniques. Donc, à ces lieux, des lieux qui sont quand même des lieux de grande toxicité, on trouve une faune associée à ces fluides et à ces fumeurs, qui est immensément variée et très, très, très riche en biomasse, donc très
dense. C'est une source de chaleur.
C'est de l'eau, en fait. Bon, l'endroit où les techniques des plaques fait que les plaques s'écartent, évidemment, on y a remonté de magma, ça crée des dorsales. Les dorsales sont de la roche la plus fréquente, c'est évidemment la roche basaltique, qui est très fracturante, enfin cassante. Donc ça crée des fissures dans lesquelles l'eau de mer s'engouffre. Et il y a une circulation qui se fait à l'intérieur de la croûte océanique. Donc les fluides se réchauffent et se chargent en métaux et en sulfure. Et donc quand ils ressortent à d'autres endroits, à d'autres fissures de la dorsale, ça crée des fumeurs, puisqu'en l'eau en fait qui a circulé comme ça dans le centre de la Terre, en fait à la bord du magma, ressort sous pression à environ 300 ou 400 degrés. Et quand elle entre en contact avec l'eau de mer, qui est plutôt entre 2 et 4 degrés, évidemment ça précipite les éléments qu'elle contient, donc ça crée des grandes cheminées, des cheminées hydrothermales. Et autour des cheminées hydrothermales, évidemment, une faune associée qui est remarquable, puisqu'elle est chimiosynthétique. Elle vit à 3500 mètres de profondeur, sans avoir absolument besoin de la lumière du soleil, et donc elle vit en synthétisant des éléments chimiques, plutôt que de synthétiser la lumière du soleil. Donc la grande découverte, c'est la chimiosynthèse, à partir de 77.
Alors, à la différence des animaux entre deux eaux, qui parfois remontent pour se nourrir, là, ces animaux qui vivent près des sources hydrothermales peuvent se nourrir sur place. Ce sont des animaux vraiment différents de ceux d'entre deux eaux ?
Totalement, totalement. Ils n'ont rien à voir. Ils n'ont pas du tout le même métabolisme. Ils ne les animaux hydrothermaux chimiosynthétiques sont des animaux qui trouvent leurs ressources alimentaires dans les fluides toxiques. Alors qu'évidemment, la faune pélagique de l'entre-deux-eaux dépend de ce qui se produit en surface ou alors de la prédation d'un camarade qui passe dans les parages. Mais tous les océans profonds, on va dire, dépendent de ce qui se produit en surface en termes de matières premières. Donc, la production primaire, la photosynthèse qui se produit dans les eaux de surface grâce au soleil, permet à toute la nourriture de couler dans les abysses. Et donc, les animaux abyssaux classiques, c'est-à-dire la grande majorité, se nourrissent de ces particules qui tombent. Alors que la chimiosynthèse aux abords des sources hydrothermales, c'est un écosystème qui est totalement indépendant de la production primaire en surface.
Alors, entre deux eaux, on trouve des méduses, on trouve des calamars, on trouve des poulpes, des poissons. Près des sources thermales et au fond, que trouve-t-on comme type d'animaux ?
Les animaux chimiosynthétiques sont des animaux qui vivent en général avec des bactéries qui sont capables de synthétiser ces éléments chimiques contenus dans les fluides. Donc, on trouve des vers tubicoles géants, par exemple, comme Riftia, qui forment des forêts rouges magnifiques. Ils ont un panache vraiment rouge frappant. On trouve des modioles, ce qu'on appelle des modioles, sont des espèces de moules. On trouve des clams, des espèces de palourdes géantes aussi, Calyptogena. Donc ça, ce sont des animaux qui sont chimiosynthétiques, qui vivent avec des bactéries symbiotiques qui permettent de synthétiser la matière organique qui leur est nécessaire. Mais autour, évidemment, de toute cette masse d'animaux qui est créée autour des sources hydrothermales, on trouve une faune périphérique qui vient parce que, d'abord, il fait bon vivre là, puisque l'eau est à 20 degrés à peu près. L'eau qui jaillit à 300 degrés et qui rentre en contact avec l'eau de mer, ça baigne, c'est pour ça qu'on les appelle souvent oasis hydrothermales, ça baigne quand même l'ensemble des eaux environnantes à environ 20 degrés ou 18 degrés. Donc il fait bon vivre à ces endroits-là. Et donc toute une faune associée à l'hydrothermalisme vit à côté des animaux qui sont purement chimiosynthétiques. Mais cette faune périphérique n'est pas chimiosynthétique, elle vit comme tous les autres animaux. Ils broutent des animaux, ils mangent des animaux, donc voilà.
Il y a une photo magnifique dans votre ouvrage, c'est une vue du fond avec des centaines d'ophiures, ce qu'on appelle les ophiures, que ce sont une sorte de cousins de l'étoile de mer. Ouais. C'est un animal qu'on retrouve très souvent dans ces milieux ?
Pas du tout, enfin ça n'a rien à voir avec l'hydrothermalisme. Mais des ophiures, oui, il y a des endroits où on va trouver énormément d'ophiures. On ne sait pas très bien pourquoi. On suppose que ce sont des endroits qui ont dû être enrichis organiquement. Donc le substrat a sans doute eu peut-être des années, je ne sais pas, auparavant, le cadavre d'un dauphin, d'un je ne sais quoi. Et donc on retrouve en effet parfois des étendues d'ophiures qui sont surprenantes. Mais ça n'a vraiment rien à voir avec l'hydrothermalisme qu'on trouve uniquement dorsales. Ouais.
Hein. Alors justement, quels sont les autres types topographiques que l'on rencontre au fond des océans ? C'est ce que je vous propose de voir après cette troisième pause. À tout de suite. Éclairage reçoit Claire Nouvian, auteur du livre Abysses, paru chez Fayard, à la découverte donc de la faune des abysses, des grands océans. Alors nous sommes arrêtés sur les sources hydrothermales. Il y a d'autres types de fonds, notamment, vous en avez parlé tout à l'heure, le Grand Canyon de Monterey.
Oui, le canyon de Monterey est le canyon le mieux connu et le plus étudié aujourd'hui. Mais il est évident, ce n'est pas le seul. Il y a des canyons, surtout les littoraux du monde. On en trouve ailleurs qu'à Monterey. Mais c'est vrai que Monterey, une plongée profonde a été faite avec les MIR, qui sont des submersibles russes, dans les années 80. Et les films qui ont été réalisés à la suite de ça ont été montrés à David Packard, qui était le fondateur de Hewlett-Packard, un multimilliardaire qui a décidé de se laisser convaincre et de créer un institut de recherche qui serait uniquement dédié à l'étude du canyon de Monterey. C'est comme ça que M. Barry, l'institut dont on parlait tout à l'heure,
a été créé
en 1987. Et du coup, toute la compréhension des canyons profonds actuels vient de l'étude précise du canyon de Monterey.
Mais quand on dit canyon, c'est-à-dire on imagine les grandes canyons des États-Unis et on les transfère sous l'eau, et c'est la même topographie ?
La même allure, exactement la même allure. Typiquement, en plus, le canyon de Monterey a vraiment la même allure que le Grand Canyon en Arizona. Mmh. Donc oui, c'est exactement ça. Ce sont des vallées avec des méandres qui vont jusqu'à, bon, en l'occurrence à Monterey, jusqu'à environ 4000 mètres de profondeur. Donc oui, c'est vraiment, c'est une bonne image. C'est un canyon sous l'eau.
Quel autre type de topographie on peut rencontrer sous l'eau ?
Alors, on trouve évidemment les monts sous-marins, dont on peut parler, bon, la dorsale, hein, qui est la grande chaîne montagneuse, la plus grande chaîne montagneuse du monde, qui fait 60 000 km de longueur sur les fonds. Évidemment, les monts sous-marins, qui sont des montagnes sous-marines, donc soit des volcans actifs ou inactifs, qui sont particulièrement intéressants, puisque je pense qu'on en reparlera si on parle un peu de pêcherie profonde. On trouve évidemment les sources hydrothermales dont on vient de parler et les suintements de méthane. Donc là, ce sont des émissions de méthane, le méthane qui suinte à travers le sédiment et qui affleure au niveau du sédiment. Et là, on a trouvé des animaux qui étaient souvent communs aux sources hydrothermales, évidemment des animaux qui synthétisent leur matière organique à partir de méthane, donc des animaux chimiosynthétiques. Donc ça, ça a été découvert en 84. Les cadavres de baleines, en fait, sont un des biotopes aussi. On s'est rendu compte qu'ils étaient tellement fréquents que c'était vraiment un écosystème à part entière. Et de la même façon, les déchets de bois, en fait, puisqu'on trouve une faune qui est commune aux baleines, aux déchets de bois, donc les troncs d'arbres, etc., qui coulent jusqu'en grande profondeur. Ils ont une faune qui est commune aux cadavres de baleines et parfois commune aux suintements de méthane, puisque dans leur décomposition, ils arrivent à une étape où ils peuvent produire des gaz qui sont proches de ceux qu'on trouve dans les systèmes chimiosynthétiques. Donc voilà, on trouve ça, on trouve évidemment les fosses. Les fosses ne représentent que 2% de l'ensemble du relief sous-marin profond. Mais évidemment, puisqu'elles vont jusqu'à 11 000 mètres de profondeur, ça mérite quand même d'être mentionné. Donc voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait le tour, je crois.
Je pense que nous avons bien fait le tour de la Terre. Il y a un...
Ah non, j'ai oublié la plaine abyssale. C'est quand même ne pas faire amende honorable puisque c'est 50% des océans profonds. C'est la plaine abyssale. Là, c'est vraiment juste une grande étendue de sédiments.
Mmh. Et la grande étendue de sédiments, là encore, offre une faune très riche.
Alors justement, la plaine abyssale, c'est l'endroit où on peut, en effet, on peut appliquer cette pensée que les gens ont du mal souvent à comprendre, qui est pourtant simple, c'est qu'il y a une grande diversité d'espèces, mais une densité et une biomasse, donc un nombre d'animaux, un nombre de kilos d'animaux par mètre carré qui est très faible. Il y a peu de ressources, hein, puisque la plaine abyssale dépend entièrement des ressources qui proviennent de la surface. Donc ça tombe en pluie fine, pas constante. On pensait constante pendant très longtemps, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait des saisons, évidemment, dans les abysses, comme il y a des saisons en surface. Hein. Ça paraît bien logique, évidemment, qu'au moment où on a des explosions de plancton en surface, on a évidemment plus de nourriture aussi dans les grands fonds. Mais donc, il y a cette pluie particulière qui parvient dans les grands fonds et qui fait un tapis de particules organiques dont les animaux peuvent se nourrir. Mais il n'y a pas assez de nourriture pour pouvoir soutenir des communautés très denses. Mais en revanche, une diversité extraordinaire. Donc, c'est là l'exemple que je citais tout à l'heure, les deux chercheurs américains qui ont fait leurs études sur leurs 40 mètres carrés de substrat et qui se sont rendus compte qu'ils avaient trouvé quand même 1600 espèces sur 40 mètres carrés, dont 58% étaient nouvelles pour la science.
Alors, nous n'avons pas évoqué dans la faune un élément très important qui est le corail. Le corail existe dans les grands fonds ?
Oui, tout à fait. Donc, on connaît les coraux d'eau froide depuis le 19e siècle. Hein. Mais ce qu'on ne savait pas, évidemment, c'est que ces coraux d'eau froide étaient aussi des coraux de grande profondeur. Évidemment, on connaît bien les récifs coralliens tropicaux et on a toujours associé un corail bâtisseur à une algue symbiotique. Donc, on a toujours pensé que les coraux étaient quand même liés à la lumière solaire. Or, on s'est rendu compte que les coraux profonds, il y en avait plus d'espèces encore que les espèces coralliennes tropicales. Et on s'est rendu compte que ces animaux-là n'avaient pas du tout besoin d'algues symbiotiques. Donc, ils étaient capables de créer des récifs gigantesques dans les profondeurs. Et c'est le problème, puisque ce sont eux qui sont touchés par le chalutage profond aujourd'hui.
Alors, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Ce qu'il y a d'extraordinaire, Claire Nouvian, c'est que vous nous présentez un monde qui est multiple. On ne peut pas parler de l'abysse, mais bien des abysses avec différents écosystèmes.
Oui, C'était le but du jeu, c'était de faire la synthèse de tout ça pour avoir des idées claires, pour comprendre qu'en effet c'est un milieu qui est très varié et qu'on ne peut pas dire, par exemple, quand quelqu'un me demande c'est comment de faire une plongée profonde, on ne peut pas répondre en disant c'est comme ça. Il faut dire où et à quelle profondeur. Ça dépend entièrement. Si on plonge sur une source hydrothermale, c'est quand même pas la même chose que de plonger dans une zone oligotrophique où il y a très peu de nutriments dans l'eau et donc on aura très peu de faune.
Vous êtes descendu jusqu'à combien de mètres ?
1000 mètres.
Parlez-nous de cette plongée.
La plongée, bah, c'était fabuleux. Enfin, je le dis sans exagérer, j'ai pas eu d'enfant, donc voilà, on me dit que le jour où j'aurai un enfant, ma plongée va être enfin supplantée, mais pour l'instant, c'est clairement le moment le plus merveilleux de ma vie. Mais une émotion merveilleuse, une émotion forte.
On revient à cette réalité dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que la réalité surpasse largement l'idée que l'on peut s'en faire.
Ouais, tout à fait. Et j'ai eu la chance de plonger dans un canyon profond sur la côte est des États-Unis. Et dans les canyons, il y a évidemment une variété, une faune, la présence d'une faune très très riche, très diverse. Ce sont des plongées qui sont exceptionnelles en termes de diversité. Et du coup, j'ai eu un grand spectacle. C'était le cinéma, j'étais au cinéma, c'était incroyable.
Vous avez pu voir différentes espèces.
J'ai vu énormément, j'avais déjà bien travaillé, donc j'ai rejoint la mission américaine. J'avais déjà, je pense, 4500 photos dans mon ordinateur, quelque chose comme ça, des espèces purement abyssales. Donc je connaissais bien les animaux. Et quand je suis descendue dans le submersible, j'ai vu une grande partie des bêtes que j'avais récoltées, qui étaient sur mon ordinateur inertes, ont pris vie. Je me suis rendu compte qu'elles existaient. C'est un rapport qui est complètement différent entre l'image et la vie. Le vivant, c'est émouvant. C'est difficile d'ailleurs d'essayer de partager ça par le biais d'un livre. Bon, c'est mieux que rien. Mais en fait, le mieux, ce serait d'aller faire une plongée soi-même.
Ce qui n'est pas donné, je crois.
Non, c'est pas donné. C'est même exceptionnel.
Alors, c'est un monde en péril, hein, c'est ce que je disais au début de notre émission. Et c'est le dernier point, Claire Nouvian, que je souhaiterais aborder avec vous après cette dernière pause. À tout de suite. Nous entamons la dernière partie de notre émission consacrée aux abysses. J'ai le plaisir de recevoir Claire Nouvian, auteure du livre « Abysses », donc consacré à cette faune extraordinaire, fantastique, irréelle des fonds marins. Alors ces fonds constituent un monde très très fragile et cette fragilité fait finalement que c'est un monde également en péril. Ce que j'ai remarqué, ce qui est d'assez fascinant dans votre ouvrage, vous consacrez deux pages au requin et on s'aperçoit que le requin est moins dangereux pour l'homme que l'homme l'est pour le requin.
Ouais, ça on le savait déjà pour les requins en surface, hein, puisque le rapport de la commission Pew en 2003 établissait déjà que 90% des grands prédateurs dans les océans avaient disparu en 50 ans. Donc on savait déjà que les requins que nous connaissons qui vivent en surface étaient déjà largement menacés d'extinction. Maintenant, on se rend compte que dans les abysses, les requins, donc les espèces de requins qui vivent en profondeur, le sont aussi, parce que globalement, il y a une règle dans les abysses, c'est que le métabolisme est lent, beaucoup plus lent qu'en surface. Donc les animaux ont une durée de vie qui est bien supérieure à leurs homologues de surface. mais ils croissent lentement, ils se reproduisent tardivement. Donc, ils ont une dynamique de population qui est très différente de ce qu'on connaît, ce qu'on connaissait évidemment, sardines, harengs, jusqu'en cabillaud, etc. Donc on ne peut pas du tout aborder l'exploitation des grands fonds comme on le fait évidemment pour les eaux de surface. Enfin, de toute façon, on n'a pas vraiment de leçons à donner parce que en termes d'eau de surface, on a quand même déjà bien exploité les ressources jusqu'à extinction commerciale de beaucoup d'espèces. Et voilà, on est en train de faire le même genre d'erreur dans les abysses, en toute bonne conscience. Donc il y a des débats en ce moment à la communauté et les débats opposent, à mon sens, le bon sens humain aux intérêts économiques. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça.
Voilà. Mais il y a une prise de conscience, hein, tout de même, vous le disiez, de la part de la Commission européenne, hein, au mois de décembre, il y a eu une réunion sur la surpêche. Vous pensez que l'on peut trouver arriver à un équilibre ?
C'est sûr qu'on peut arriver à un équilibre. Le débat, c'est qu'il faut, on n'a pas le choix. C'est absolument normal qu'on prélève des ressources dans le milieu naturel. Le problème, c'est qu'on a une démographie qui est quand même galopante. Donc, il y a en effet un moment où les autorités ont compris que dans notre pur intérêt égoïste, il fallait de toute façon gérer ces ressources. Sinon, on allait quand même le payer cher. Donc, je pense qu'il faudrait écouter plus les chercheurs. Enfin, c'est quand même pas très compliqué. Il y a quand même des gens qui arrivent en toute bonne volonté à expliquer que, ils disent pas toujours des choses qui sont applicables. Bon, vous comprenez, ils veulent trop de principes de précaution. Il y a toujours moyen d'être de mauvaise foi et de pas écouter le savoir scientifique. Mais des chercheurs se posent quand même ces questions-là et font des études qui sont très sérieuses et qui sont très documentées. Donc, ne pas prendre en compte les résultats de leurs travaux, ça me paraît quand même... je sais même pas... C'est tellement aberrant, je sais même pas, je comprends pas.
Le directeur des programmes de WWF, Bernard Cressin, le présentait. Hein, le problème, disait-il, c'est que nous avons mis en place une pêche de profondeur sans connaître la vie des poissons que l'on pêchait. Hein, parce que cette pêche, il faut bien s'en rendre compte, concerne véritablement les grands fonds. C'est-à-dire qu'on a des filets qui vont au-delà de 400 mètres.
Ah oui, ça va jusqu'à 2000 mètres aujourd'hui. Oui, c'est un peu le problème. C'est qu'on a armé des bateaux pour exploiter les très grandes profondeurs. Et ensuite, on s'est rendu compte que les poissons, l'empereur, par exemple, se reproduisaient à 30 ans. Ah bah oui, ça pose un problème, en effet. Si on pêche tous les empereurs, ils ne peuvent plus se reproduire. Donc, on mène l'espèce à l'extinction dans un cycle qui est inférieur à 10 ans. Donc, c'est pas possible. Enfin, c'est juste impossible. Donc, je proposerais tout simplement de désarmer les bateaux. Enfin, c'est simple, de trouver un moyen. Il y a très peu de bateaux. Et la flotte en France, elle est de 50 bateaux, de bateaux profonds. Ils n'ont même pas rempli leur quota de pêche l'année dernière. Ils ont un quota de pêche qui est fixé pour les espèces profondes. Ils n'ont même pas rempli leur quota de pêche. Donc ça prouve qu'on est déjà devant la limitation des ressources. Donc ça me paraît pas... Finalement, c'est une équation. Il suffit de faire des maths de base pour comprendre que voilà, il y a des poissons, ils se reproduisent lentement. Il faut leur laisser le temps de se reproduire. Donc on est obligé de limiter les quotas. Mais bon, la France s'y oppose.
Alors, il y a un souci écologique autour du réchauffement de la planète, qui est une des questions qu'a abordé l'Académie des sciences, et qu'elle aborde d'ailleurs régulièrement. Quelles conséquences pour la faune des grands océans, ce réchauffement de la planète ?
Je peux vous dire ce que j'en pense comme ça, mais à la fois, je peux pas faire autorité sur un problème aussi complexe, puisque déjà, les chercheurs entre eux ne sont pas d'accord et ont des modèles quand même qui disent l'inverse les uns et les autres de ce qui pourrait se passer dans l'avenir. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que tout l'oxygène qui parvient dans les grands fonds, tout l'oxygène qu'on trouve dans l'eau se fait par échange avec l'air, donc l'interface eau-air. Donc, l'oxygène qui parvient dans les grands fonds, il parvient grâce aux courants froids qui sont denses et qui coulent sous les eaux tempérées et qui arrivent dans les grands fonds. On imagine évidemment que si on réchauffe et qu'on est dans un cas de figure de fonte des glaciers et de fonte de la banquise comme c'est déjà le cas, on suppose bien que ça peut arrêter cette circulation profonde. Or, les espèces ont toutes besoin d'oxygène pour vivre. Mmh. Donc, il y a déjà eu des phases d'extinction massive hein, dans les grands fonds. En période de réchauffement climatique sur la planète, on arrive à des cas de figure où jusqu'à 80% des espèces profondes peuvent disparaître. Mmh. Ça s'est déjà produit. Donc, on suppose que ça peut être une conséquence logique directe.
Alors Claire Nouvian, nous arrivons au terme de cette émission. Je voudrais tout de même terminer par une note peut-être un peu plus positive et j'allais dire personnelle. Si vous deviez retenir un qualificatif ou un nom pour désigner les abysses.
Vous couperez le silence, hein, parce que sinon ça risque de prendre un moment. Un qualificatif.
Tu pourras mettre une pub là, si tu veux, Mathieu.
Alors attends, un qualificatif, ça c'est dur comme question. C'est dur comme question.
Vas-y, je te repose la question.
Non, j'ai
faut que tu...
Oh. Un qualificatif, je peux te donner une phrase?
Oui.
Je peux dire loin des yeux, loin du cœur. Voilà. Ouais. Les abysses, loin des
yeux. Je vais te reposer la question, alors.
Ouais.
Pour, Claire Nouvian, nous arrivons au terme de cette émission et je voudrais vraiment tout de même rester sur une note positive et peut-être plus personnelle. Si vous deviez retenir un qualificatif ou un nom pour désigner les abysses.
Je dirais loin des yeux, loin du cœur. Puisque le drame des abysses, c'est qu'on peut y faire ce qu'on veut et que personne n'en est témoin.
Votre mascotte des abysses?
Ça, c'est facile, c'est immédiat, c'est le poulpe à oreille.
Le poulpe à oreille qui est un poulpe de quelle couleur?
Rose, comme pour les filles.
Et alors, Claire Nouvian, le meilleur souvenir attaché à ce livre?
De ma vie, de toute façon, il se trouve qu'il est attaché à ce livre, mais c'est ma plongée profonde, sans hésitation.
Eh bien, Claire Nouvian, merci beaucoup
à vous
d'être venue au micro de Canal Academy pour nous parler de votre ouvrage, auquel je renvoie nos auditeurs, Abyss, paru chez Fayard au mois d'octobre dernier. Je vous remercie, c'était Mathieu à la technique, et à très bientôt.